dit, si nous ne pouvons pas capter la parole de Dieu en trois dimensions, l'écouter, vivre cela parce qu'on l'aura vu et la mettre en pratique en même temps. C'est comme ça seulement que nous pouvons dire ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu et ce que j'ai touché. Aujourd'hui, j'ai toutes les possibilités de confirmer que mon Seigneur Jésus-Christ est bel et bien l'envoyé de Dieu et qu'il est vivant. Puisque le monde aujourd'hui joue sur ce qui concerne Jésus-Christ, tout parle de là. Par le nom de Jésus-Christ, nous sommes donc tous situés, soit avec Dieu, soit loin de Dieu, soit dans sa parole ou éloignés de sa parole. Car tous parlent quelque part de Dieu. Il est vrai que même des confessions que nous ne pouvons pas citer, mais d'autres confessions croient que Dieu existe. Mais la différence vient quand maintenant on doit savoir qui est celui qui est venu pour nous libérer, pour nous sauver. Là, c'est là où devient difficile, c'est ça qui nous divise, car Jésus est le seul et l'unique chemin que le Seigneur a tracé. Nous avons pris un exemple au livre d'Éphésiens. En lisant le livre d'Éphésiens, je crois que pour ceux qui ont eu cela, vous avez vu ce verset que nous j'ai envoyé. Dans le premier chapitre, je vais dire dans le premier contexte de chapitre d'Éphésiens, donc qui commence à partir de chapitre 1. Nous verrons cela de chapitre 1 et aussi jusqu'à chapitre 1, à partir du verset 3, allant jusqu'au 23, dans lequel on nous parle d'abord de toutes les bénédictions qui est en Jésus-Christ. L'auteur ici, du livre d'Éphésiens, qui est l'apôtre Paul, va décrire toutes sortes de bénédictions. Bref, ce qui concerne la chair et aussi ce qui concerne l'esprit. Ou un vrai mot, si nous voulons dire cela, ce qui concerne les corps physiques, les corps de chair, les corps de poussière tels que nous sommes ici, car ce corps vit et nous devons vivre avec lui, mais aussi bien le corps invisible, qui est le corps spirituel, que nous avons obtenu par la naissance, la nouvelle naissance, par le Saint-Esprit, par les eaux du baptême, par la grâce de Dieu, par le don de Dieu, ce corps spirituel, qui, ce corps autrefois inconnu, mais aujourd'hui prend vie par cette naissance. Et ce corps, c'est dans ce corps spirituel que le Seigneur vient pour entrer en communion avec nous. S'il y a une révélation, s'il y a un enseignement à faire, c'est par l'Esprit que le Seigneur vient pour faire cet contact avec notre esprit et pouvoir nous enseigner. Nous devons donc, selon le Seigneur, sa volonté, c'est que nous dépendions de l'Esprit. Et cependant, nous venons de naître spirituellement. Les corps spirituels commencent comme les corps charnels a commencé, en commençant par le bébé. Donc, nous commençons comme le bébé a besoin du lait. Du côté spirituel, nous avons aussi le besoin de la parole du lait, qui était une parole de débit, pleine de promesses, pleine de bonnes choses. Sans les révélations, arrive au fur et à mesure que nous grandissons, et alors là, on commence à comprendre le vrai sens de notre appel, de notre existence, du but de Jésus dans la croix. Mais au début, c'est de plein de bonnes choses, de bénédictions, exactement comme on fait avec les enfants dans le monde qui vont à l'école, c'est pour prendre des bonbons, c'est des chocolats, des jouets, mais petit à petit, au fur et à mesure qu'ils croissent, maintenant, les choses sérieuses commencent et jusqu'à ce que maintenant, c'est l'enfant lui-même qui va prendre conscience pour aller seul à l'école et il va se forcer à grandir. Il en est de même, car ce qui est charnel que nous voyons, c'est pour nous enseigner ce qui est spirituel. Donc, dans ces livres, nous voyons très bien là où le Seigneur nous enseigne que c'est dans Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ. Cela complète l'enseignement que nous aurions pu lire dans le livre de Galates pour nous faire comprendre que c'est vrai, Abraham a été béni, c'est vrai. Mais la bénédiction qu'a reçue Abraham, il l'a reçue en Christ. Et pour nous aussi, qui sommes héritiers de la foi, comme notre père Abraham, nous sommes bénis en Jésus-Christ. Ce mot « en » signifie « dans ». Ça veut dire « ta bénédiction se trouve dans Jésus-Christ ». Et comme nous sommes bénis chaque jour, le Seigneur nous donne juste ce qu'il faut pour la journée. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela. Le Seigneur te donne la manne d'aujourd'hui. Et ce qui est de demain, il le garde. Il te donnera par sa grâce. Si jamais tu atteins le lendemain, demain matin, tu auras ta part de lendemain. C'est un peu pour cela qu'il nous a enseigné, chaque jour suffit sa peine. Donc, c'est comme ça que les choses de Dieu se fonctionnent. Dieu ne te donne pas tout ce que tu as besoin pour toute ta vie, une fois pour toutes que tu t'en ailles. Non, il te garde là. Chaque matin, tu auras ta part, tu auras juste ce qu'il faut. Et comme il sait tout ce qui va arriver, il y a des jours, les jours sont différents. Quelquefois, les jours qui nous attendent, ce sont des jours de combat, des épreuves, des attaques. Mais alors, à ce moment, le Seigneur peut doubler sa dose de manière à ce que tu ne sois jamais vaincu. Le livre des 1 Corinthiens, au chapitre 10, nous dit, c'est vrai, nous allons avoir des difficultés, nous serons persécutés, mais jamais une difficulté ou une épreuve sera au-dessus de tes forces. Seigneur, le Seigneur peut regarder et voir ton âge spirituel. Il connaît tes qualités, tes faiblesses. Il voit cela. Mais quand viendra les persécutions, il fera en sorte que tu sois toujours vainqueur. Mais pourquoi les persécutions? Parce que les persécutions nous aident à comprendre, à nous situer vis-à-vis de la parole, quel âge nous avons maintenant. Car sans les persécutions, il n'est pas possible de nous situer. Ce n'est que les persécutions qui sont comme des tests de notre foi. Quand ça arrive, et alors à chaque épreuve, sachez-le, après la victoire, tu montes d'un cran en t'approchant de plus en plus vers le Seigneur. Donc les persécutions seront de plus en plus plus fortes. Ce que tu as eu hier, c'est encore rien. Mais ce que tu as montré, la victoire d'aujourd'hui, bien sûr, elle était bien et plus forte qu'hier. Mais ce que les persécutions peuvent venir demain, ça sera plus qu'hier. Et quand tu auras vaincu, bien sûr, tu vas encore monter beaucoup plus haut. Mais qu'est-ce que le Seigneur cherche? Le Seigneur cherche à ce que nous tous, nous puissions croître spirituellement de manière à ce que nous soyons semblables à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Le livre de Romains, au chapitre 8, verset 29, nous montre cela, et bien d'autres. Il y a au moins 6 versets qui se suivent, là, même dans 1 Jean, même dans le livre des Corinthiens, même dans le livre des Philippiens, qui nous parlent de ça. L'objectif final, c'est d'être semblable à l'image de Christ. Voilà là où il vient. Alors, cette croissance-là, cette croissance, nous allons la vivre jour après jour. C'est cela que le Seigneur a dira, il est un chemin. Ce chemin, c'est le chemin de la croissance, le chemin des enseignements, le chemin des expériences, jusqu'à ce que nous atteignions ce niveau-là. Même que la parole de Dieu, nous devons avoir un jour, une stature parfaite dans la mesure de la voie, de la foi qu'avait notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là l'objectif final. Alors voilà le chemin, maintenant se trace devant toi. Avec les apôtres, ils ont mis 3 années avec le Seigneur avant qu'il les envoie pour aller témoigner. Mais malgré cela, l'enseignement ne finit pas. Nous pouvons passer toute notre vie et le Saint-Esprit aura toujours, toujours quelque chose à te révéler encore beaucoup plus. Parce que la Bible que nous tenons, bien-aimés, devant Dieu, c'est comme s'il y a 7 livres en même temps sous nos mains. Car chaque verset peut être représenté de 7 façons. 7 faces, c'est un peu comme le diamant, on peut regarder tantôt de cette manière, tantôt d'une autre manière. Ce que tu as lu aujourd'hui, ce même verset, après la prière de demain, quand tu prendras ça, tu trouveras une autre lecture, une autre signification. C'est que le livre que nous voyons, cette parole, elle est si profonde. Mais n'oublions pas, c'est le logos. Mais le rhéma est encore beaucoup plus que cela. Car dans le rhéma, comprenez que le rhéma commence à la fin de l'Apocalypse, là où il y a le point de l'Apocalypse, c'est là où le majuscule de Rhéma commence, car c'est un peu reprendre la Bible pour la deuxième fois, pour la lire cette fois ici, non pas avec le cerveau, mais avec le cœur, avec amour, en vivant maintenant cette parole, en ayant les significations exactes, surtout dans cette façon de lecture des paroles qui te concernent, toi. Avec ton nom, car le Seigneur a dit, le dernier jour il viendra et chacun de nous aura un nom connu par lui-même. C'est écrit dans l'Apocalypse. Et ce nom qui te différencie de l'autre fait en sorte que des enseignements propres à toi seront aussi différents l'un de l'autre. Mais là, pour comprendre ces choses, c'est surtout l'expérience. L'expérience, on apprend plus par l'expérience que par la théorie. La théorie est limitée. Mais l'expérience, en faisant toi-même un méchant, c'est-à-dire tu copies l'exemple même, comme le Seigneur l'a dit déjà, soyons imitateurs de notre Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, je vous demanderai de méditer cela, si que le Seigneur vous donne un temps. Elle va nous parler cette fois des différents types de bénédictions que nous pouvons avoir en Christ, pas en dehors de Christ. Christ en vous, et alors l'espérance de toute la liste de ces bénédictions va commencer. Comment être en Christ? C'est mettre en parole la pratique, c'est-à-dire se laisser dépendre de Jésus-Christ, se laisser conduire par le Saint-Esprit au travers de la parole, c'est signifie tu as mangé la parole, car maintenant cette parole va couler dans les veines spirituelles de ton corps spirituel et va vivre en toi. Ça va te donner de la sève, si vous voulez. C'est justement l'eau que le Seigneur avait promis à la femme samaritaine. Si moi je te donne de l'eau, tu deviens toi la source d'eau et tu ne viendras pas chercher de l'eau, car l'eau va te remplir ton cœur. Et tu en auras même assez pour pouvoir partager ça avec les autres. Le Seigneur avait souvent l'habitude de nous parler par un parabole, mais ce que signifient ces paroles, c'est cela. Donc, bien-aimé, quand on regarde dans ces livres d'Éphésiens, et va lire, comme j'avais dit, oui, elle commence par le verset 3 jusqu'au verset 23, dans ou à la fin. Le Seigneur va nous montrer que tout pouvoir lui a été donné et qu'il est lui, le Seigneur Jésus-Christ, la tête ou le chef de l'Église. Quand il dit le chef de l'Église, nous savons que tout de suite après, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons l'Église, nous voyons les bâtiments, nous voyons des cathédrales et on se dit, il est la tête. Oui, bien sûr, comme on le dit, non, si nous voyons l'Église comme telle, disons-le, il est le chef de la planète. D'accord, c'est comme ça alors. Mais quand il parle de l'Église, il est question de chacun de nous. Parce que où est l'Église? L'Église de Christ est une Église de cœur. Là où il a dit, ce ne sera plus sur la montagne pour corriger ce que la femme disait. Ça ne sera pas sur la montagne, ni à Jérusalem, là où il y avait des bâtiments, car tout ce qui est là sera détruit. Mais les adorateurs, le vrai. Les vrais, dans un culte raisonnable, c'est dans le cœur. Dans le cœur, c'est l'Église de Christ. Et le cœur t'accompagne partout. Pour dire, ton Église t'accompagne partout. Dans le train, dans la voiture, dans l'avion, dans la bateau, dans le bateau, dans la maison, où que tu te trouves, tu n'as pas un billet à payer, tu n'as pas une distance où dire, oui, comment je veux faire, comme la Bible le dit dans Deutéronome. J'ai mis, moi, pas loin, tu n'auras pas à dire, je n'ai pas de bateau, je n'ai pas de billet, qui va me porter? Non. Je vous dis, bien-aimé, l'Église est juste là, au centre de ton cœur. C'est là où il se trouve. Tu peux l'évoquer partout. C'est ça, ce que le Seigneur a voulu que nous soyons. Alors, quand on nous dit que Jésus est la tête de l'Église, mettez-vous maintenant à comprendre maintenant, puisque tu es l'Église de Christ, ton chef, c'est Jésus-Christ. Écoute bien ce que je vous dis. Et s'il est ton chef, c'est-à-dire, tu t'es mis à sa disposition par la confession, tu es même sa possession parce que il est ton chef. Et s'il est ton chef, c'est lui qui guide tout. C'est pourquoi vous verrez J'ai même ajouté un petit verset qui est de 1 Corinthiens au 3,16. Nous sommes donc, nous, le temple du Saint-Esprit. Et si nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui gère maintenant notre vie de la manière que Paul a réussi à dire cette phrase inspirée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Donc, on nous voit charnellement. Bien sûr, ta mère peut dire, c'est mon fils, mais ce qui est né de nouveau dans toi, ça, elle ne connaît pas, car tu n'es plus le même. Dieu change le caractère, Dieu change le comportement de manière à ce que tu l'appartiennes et que, en te regardant de près, ta façon de parler, ta façon de marcher, ta façon de réagir dans tout ce qui se passe, on voit que c'est toute la parole qu'on peut lire. Il y a des gens qui peuvent être convertis rien que par ton comportement, en t'observant, en te regardant, et ils vont dire, effectivement, le Seigneur est réel, il est dans lui. Nous sommes pour cela des signes pour Dieu. Nous sommes la référence de Dieu, en quelque sorte des mannequins que Dieu est en train de maquiller de manière à nous présenter devant le monde, que le monde s'étonne et en nous interrogeant. Mais quel est votre secret? Que nous ayons cette grâce de proclamer le Seigneur. Mon Seigneur est vivant, son nom est Jésus-Christ. Et en faisant cela, nous avons atteint la maturité. Car, bien-aimés, l'objectif final à quoi? L'objectif final, nous sommes comme des lettres A à récit, il doit transmettre à B, et B doit prendre et ensuite transmettre à C. Voilà comment c'est, etc. Donc, c'est une mission sacerdotale qui se transmet. Admettons que tu attends cette parole et que de chez toi, la parole s'éteigne, s'étouffe et qu'on n'a pas eu moyen de transmettre à aux autres. Donc, chez toi, c'est la fin de la parole. Et si tu étouffes cette parole, bien-aimé, ça veut dire aussi, ce silence que tu fais là, tu deviens contre-Christ. C'est une complicité contre le bourreau, tu es plutôt avec le bourreau de notre Seigneur Jésus-Christ, tu t'associes avec lui. Un chrétien doit parler. Nous ne sommes pas acteurs dans le monde, mais nous sommes acteurs avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce que nous avons été avant, nous avons fait tout ce que nous voulions, je suppose. Nous avons passé un certain moment de notre vie à faire ce que nous voulions. Nous nous sommes lancés dans de multiples chemins. Et nous connaissons où est-ce que tout ce que cela nous a conduit. Mais maintenant que nous avons pris conscience à cela, Jésus est vivant. Maintenant, nous venons vers lui pour nous connecter à lui, pour être maintenant ses enfants, ses fils, les co-héritiers ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ pour la gloire de notre Père. Bien-aimé, il n'est pas trop tard. Je vous dis déjà ça, il n'est pas trop tard. Avec cette parole ici, on peut dire oui, mais écoute-moi bien. Ce que Dieu attend de toi, c'est seulement pour lui dire, Père, j'ai compris, je viens vers toi au nom de Jésus-Christ, aide-moi. Car vous voyez, l'application, l'obéissance à toutes les lois de Dieu, aucun humain ne peut le mettre en pratique par lui-même. Mais Dieu sonde les dispositions de cœur. Il voit comment tu as envie, envie. Et tu es là, cette envie, c'est de voir quand tu es tout le temps le matin, tu es là pour la prière, tu attends la parole de Dieu, ça t'intéresse, tu es attiré un peu plus en plus à la parole de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut. Dès que tu montres cette volonté-là, alors lui, il intervient par sa puissance. C'est pour cela que le Saint-Esprit vient. Donc, si tu veux voir le miracle de Dieu, et je veux donner un exemple. Moïse, il devait traverser la mer. Mais quand il est venu, c'est pas tenu loin de la mer. S'il avait fait ça, la mer n'allait pas s'ouvrir. Il est venu, il a mis ses pieds dans l'eau. Et dès qu'il a mis ses pieds dans l'eau, puis il a frappé l'eau, maintenant l'eau s'est ouverte, la mer s'était ouverte, il y avait un passage, alors il pouvait passer. Dieu attend que tu mettes le premier pas. Dieu attend que tu montres vraiment que tu as dit oui. Et c'est oui, ça se confirmera, non pas par les lèvres, mais par l'action qui va suivre, qui prouve maintenant en suffisance la foi que tu as, car la foi est mieux démontrée par les actes que par la bouche. Donc, quand on entre maintenant en exercice, c'est vrai, tu as cru. Et à ce moment-là, le Seigneur vient. Alors, il va rendre possible ton impossible. Tout ce qui est pour toi, que je dis, je t'ai fatigué. Ah non, moi, je suis désespéré. Tu comprendras maintenant qu'avec Dieu, les choses sont différentes. Alors, puisque tu attends cette parole, je vous dis avec sincérité, avec toute vérité, cette parole nous a été destinée. Peut-être que tu es venu, toi, pour prier. Peut-être que tu es là pour prier en te disant que, bon, je fais la prière parce que j'ai besoin de, j'ai besoin de, j'ai besoin de. Oui, c'est vrai. Tout ce que tu as besoin là, laisse-moi te dire, je vais te révéler quelque chose. Dieu a dit, tout ce que vous voulez demander là, vous seront donnés avant même que vous soyez demandés. Mais le plus important, c'est faire d'abord la volonté de Dieu. D'où le verset qui nous dit, trouvez d'abord le royaume et le reste vous sera donné. Il y a une différence de dire vous sera donné ou trouvez d'abord le royaume de Dieu, ensuite allez chercher ce que vous... Non, le Seigneur dit, le reste vous sera donné. Et crois-moi, si c'est Dieu qui doit choisir ta robe, ben là, ce serait vraiment à juste mesure. Si c'est lui qui doit choisir tes souliers, tu ne mettras pas deux fois pour dire, oh, ça me fait mal, et parce qu'il te connaît en profondeur plus que toi tu le connais. Où est le problème alors? Il n'y a aucun problème. Et si nous avons donc la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, je vais vous demander à vous tous de faire cette prière, la prière clé, la prière de la porte. La prière pour nous laisser entrer dans le Seigneur, je demande à ce moment que vous puissiez répéter ça ensemble avec moi. Et cette prière, tu pourras la faire même par la suite de tout ton cœur. Et ça ne coûte rien de répéter cette prière, car nous disons dans nos couples, oui, je t'aime, mais ça ne se limite pas là. On le répète. Et pourquoi pas avec Dieu? Ça fait plaisir à Dieu de t'attendre, confesser son nom et de te confier en son Fils et de faire confiance à sa parole. Car dire que Dieu n'a pas menti, il n'y a rien d'autre qui plaît à Dieu que quand tu confirmes que la parole de Dieu est vérité, que tu as fait confiance. Faisons donc cette prière ensemble avec moi au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le message que nous venons d'entendre à ce moment. Ce message, Seigneur, est comme un miroir de ma vie. Je viens de me voir. Je viens d'observer, Seigneur, ma vie. Je suis capable maintenant de regarder comment moi je marche. Je te demande pardon. Il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es l'espérance de l'humanité. Je confesse ton nom comme mon Seigneur Sauveur personnel. Tu es mon Dieu. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Pardonne-moi les offenses, pardonne les iniquités. À partir de ce moment, mon corps, mon âme et mon esprit, Seigneur, se soumet à toi. Accepte-moi comme ta possession. Je suis venu, Seigneur, que tu te sers de moi comme un outil de la justice à la gloire de notre Père. Je hais le mal, je hais le péché, je hais le diable. Mais aujourd'hui, Seigneur, je t'ai choisi, toi, mon Dieu. Ma raison d'être, ma source, que le nom de Jésus-Christ soit béni, béni à l'éternité, à l'éternité, à la gloire de notre Père. Nous venons de prier ainsi. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À vous tous qui avez participé à cette prière, encore une fois, soyez bénis. Et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ trouve sa vraie place au fond du cœur de chacun. Je vous aime bien. Amen.